Ouh. Ah, est-ce qu'on est bien là?
Ouais,
on est bien.
On n'allumerait pas la radio?
Ouais.
Bon, on s'écoute Bartas alors, hein?
Ouais.
On s'écoute Bartas?
Décollage pour les matinales de Bartas.
Les matinales de Bartas,
de 8h à 9h,
sur le 107FM.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 mai, il est 8h. Alors aujourd'hui dans la matinale, on part à Bruxelles. Et oui, mais pourquoi me direz-vous? Eh bien, je serai avec Lila qui est enseignante dans une école à éducation alternative 100% publique, financée par la commune de Saint-Gilles qui est une des communes de Bruxelles. Elle a été réfléchie entre autres par des philosophes, par des sociologues ou encore des pédagogues. Et vous allez voir que nos amis belges ont un temps d'avance et qu'il serait bon peut-être qu'on s'en inspire un tout petit peu plus ici en France. En deuxième partie d'émission, Manon est allée à Sainte-Croix, vallée française, pour les journées de la forêt qui avaient lieu le week-end passé. Le tout avec une programmation musicale, je me suis fait plaisir, 100% belge, et oui, mais on commence bien sûr, comme d'habitude, par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Les enseignants de Floride vont pouvoir être armés en classe. Et oui, la loi votée par le Parlement local et qui devrait être promulguée par le gouverneur de l'État est extrêmement controversée et son efficacité reste à prouver. Le Parlement de l'État américain de Floride a adopté mercredi 1er mai la loi autorisant les enseignants à porter une arme à feu en classe. L'objectif de cette nouvelle loi, qui devrait être promulguée par le gouverneur républicain Ron DeSantis, est d'éviter une nouvelle tuerie en milieu scolaire après celle survenue dans un lycée de Parkland où un élève avait tué, souvenez-vous, 17 personnes le 14 février 2018. Le texte a été approuvé par 65 voix contre 47 à la Chambre des représentants de Floride. Il avait obtenu la semaine d'avant la majorité au Sénat local. La loi prévoit que les professeurs puissent s'armer sur la base du volontariat après avoir suivi une formation au maniement des armes de 144 heures. Peut-on penser que les profs sont fiables à 100%? Je me le demande. Les opposants à la mesure soutiennent que la solution aux violences par armes à feu ne peut être d'en autoriser davantage. Ils s'alarment en outre du danger d'accident chez les enseignants, catapulté de facto dans une mission policière et qui pourrait, face à de vrais policiers, être pris par erreur pour des tireurs dangereux. Armer les enseignants est la recette pour une tragédie, a commenté la représentante démocrate de Floride, Val Demings, ex-chef de la police de la ville d'Orlando. Vous voyez, elle sait de quoi elle parle. La véritable solution, dit-elle, est de garder les armes hors d'accès des mains néfastes. Après la tuerie de Parkland, le président des États-Unis, Donald Trump, avait proposé d'armer les enseignants dans tout le pays, mais avait refusé d'envisager l'interdiction des fusils d'assaut, un type d'arme très létale utilisée le jour du massacre. Ben voilà. Là, on voit qu'il y aurait peut-être une solution très simple, mais qui ne fait pas l'affaire pour le président américain. Imaginons qu'un prof pète un plomb, ce qui est possible, hein, ça pourrait vraiment mal finir. Tiens, à ce propos, je vous renvoie à cet excellent film La journée de la jupe, ça a un peu en lien. Et oui, ça peut faire réfléchir. Allez, dans un instant, on parle d'éducation alternative avec Lila, une véritable bouffée d'air, vous allez voir ça. On écoute en attendant Lego Fossuc, Toutes des Wasses, c'est de l'humour belge.
Toutes des Wasses, hein.
Que je suis un homme qui aime des femmes, que je bois de la bière les samedis en gaïdaï, mais je joue à la pelote et au whist dans les cafés. Mais chaque soir quand je rendais ma femme, me casse les pieds.
Toutes mes wasses sont ma mère et la petite, mais encore c'est pas ce qu'on veut m'en dire. Toutes mes wasses sont ma mère et la petite, mais encore c'est pas ce qu'on veut m'en dire.
Oh mais qu'est-ce que j'ai donc? Ce sont mes époques.
Quand j'ai bu 22 bières, une trappiste et oui coupée, manger 3 quarts sous les deux saucisses pour m'en souper. Oui, dormir jusque des midis et regarder mon poste TV. Même ma bonne crie.
Ah si, mais quand vas-tu donc changer?
Toutes les wasses sont pas mêlées la petite, ni encore c'est pas ce qu'on peut pas dire. Toutes les wasses sont pas mêlées.
un petit ange là.
Le jour où je m'ai marié, j'ai essayé d'essayer. Moi pété dans mon lit, plus vomi, tous mes soupirs. Quand je regarde dans la rue, les petites femmes viennent à gâteler. Mais ma femme leur dit
bah, tu feras bien, oui.
Mais j'ai plus qu'à la boucler.
Toutes mes wasses sont ma mère et la petite. Et moi encore, c'est pas ce qu'on peut mal dire. Toutes mes wasses sont ma mère et la petite.
Chose dans tes pieds. Ne gratte pas dans ton nez. Dis c'est toi qui as fraisé. T'es vraiment qu'un gros porc. T'iras dormir dehors.
Nous sommes ce matin avec Lila, bonjour.
Bonjour.
Lila, tu es bruxelloise et tu as fait une petite partie de Stevenson de Charades à Florac. Alors on va pas se cacher que ça fait 15 ans qu'on se connaît, hein. On a fait de la musique ensemble, on a eu un groupe, même tout ça. Et on s'est recroisés la semaine dernière en Belgique, en carnaval.
Eh ouais, incroyable histoire que de se retrouver 15 ans plus tard, n'est-ce pas?
Incroyable. Alors je vous vois derrière votre poste, chers auditeurs, chères auditrices, dubitatif quant à recevoir une bruxelloise dans nos studios, je comprends. Bon, on n'est pas là pour parler de ton périple sévenol, hein, ni de ton expérience musicale. Non, Lila, nous sommes là parce que tu es prof de musique à Bruxelles, mais dans une école bien particulière. Un système éducationnel dont seuls les Belges pouvaient être précurseurs, financés par l'État. Tout est public, ce système pourrait bien vous intéresser, chers Lozériens. Alors Lila, 400 élèves sont dans l'équivalent de notre collège-lycée, on appelle ça le secondaire en Belgique. On va en parler plus en détail dans un instant, mais en fait, il faudrait déjà que tu nous expliques comment ce concept d'une nouvelle forme d'école est né.
Alors c'est très simple, on a réuni plusieurs philosophes, sociologues, pédagogues, tous des gens bien pensants, autour d'une table pendant 7 ans, et ils ont co-construit un projet, en fait le projet de l'école de leur rêve, en fait l'école qui a du sens, et on a répondu à un appel à projet de la commune de Saint-Gilles, qui est une commune de Bruxelles, pour laquelle il manquait une école en fait, et notre projet a été validé, choisi par la commune.
Alors quel est le concept?
Alors, c'est une école à pédagogie alternative, c'est-à-dire que nous n'allons pas fonctionner comme les autres écoles et nous n'avons pas envie non plus de nous coller une étiquette vilaine et méchante comme école à pédagogie institutionnelle ou une école à pédagogie Freinet ou une école Montessori, bien que nous allons prendre absolument tout ce qui nous intéresse dans toutes ces pédagogies dites alternatives, c'est-à-dire que notre école se veut être en constant re-questionnement par rapport à notre fonctionnement et que malheureusement, dans beaucoup trop de cas, l'école est trop institutionnalisée et donc du coup ne peut pas être remise en question et n'évolue pas. Alors que nous voulons constamment cette remise en question afin de s'adapter constamment à notre public finalement.
L'idée c'est justement de ne pas s'enfermer dans un carcan et d'utiliser tout ce qu'il y a de bon pour que la pédagogie des élèves s'adapte en fonction de temps, des mœurs de la société et de tout ce qui nous entoure.
Exactement. Et alors, on va plus loin même dans le projet. C'est-à-dire qu'on co-construit cette école avec les élèves en partenariat complet. Et donc, nous sommes vraiment dans une pédagogie participative où l'enfant devient citoyen, mais aussi engagé dans son propre apprentissage, dans son propre investissement dans l'école. Et donc, cette co-construction, en fait, ne permet pas une institution qui est immobile.
Comment ça se passe une journée type dans ton établissement?
Ah ah, eh bien, une journée type, c'est le paradis, déjà. que du bonheur et du sourire. Mais alors, plus particulièrement, on a donc la matinée qui se déroule de manière totalement transdisciplinaire. On va travailler pendant 3 semaines autour d'un module qui va se questionner sur une thématique. Par exemple, on a déjà eu la thématique « Comment mange le monde ?» ou bien « Astrobien ?» ou « Qui suis-je parmi les autres ?» Ce sont le genre de thèmes que l'on va aborder. Et en fait, les cours, donc les disciplines mathématiques, français, géo, vont se greffer à ce thème. Et donc les élèves vont aborder un peu de manière tout à fait inconsciente ces disciplines et ces compétences qu'ils doivent acquérir pour l'État, en fait, finalement, pour l'examen final. Donc on appelle ça le bac chez vous. Et donc, de manière complètement logique, en fait, l'élève va être soumis à devoir utiliser des compétences et rechercher des choses sans même s'en rendre compte. Par exemple, pour comment mange le monde, on va faire des statistiques, donc on va travailler les maths, on va voir la géographie, on va écrire une lettre en anglais à une école anglophone pour savoir, tiens, bah, et vous, comment vous faites pour manger à la cantine ? Et on va se poser toutes ces questions sur l'acheminement de la nourriture par chez nous, enfin voilà. Et ça peut aller très loin et donc il faut co-construire ces cours. En fin de matinée, on a ce que l'on appelle le GR, c'est un groupe de référence. Alors le groupe de référence a son référent, par exemple moi je suis référente du GR qui s'appelle Go Ako. Go anglais qui veut dire aller, Ako en néo-zélandais qui veut dire apprendre. Au tout début de l'année, on a donc créé ces petits groupes classes qui sont des groupe classe multi-âge, donc c'est-à-dire qu'il y a des élèves de 12 ans à 18 ans mélangés dans une classe de 15 personnes. Et on se crée une petite famille, c'est un petit cocon, c'est un endroit où on se sent bien pour pouvoir poser des questions, être responsable de son apprentissage et autonome. On apprend l'autonomie dans ce groupe de référence. Alors, je continue parce que c'est pas fini. Ce groupe de référence, donc, c'est un moment où on va faire les devoirs, en fait. On essaye d'éviter au maximum les devoirs à la maison. Ça veut pas dire qu'il y en a pas. Ça veut juste dire que pour conserver l'égalité des chances, en fait, face à l'apprentissage, on va mettre à disposition des élèves tout le matériel et toutes les réponses qu'ils peuvent avoir besoin, des dictionnaires, des atlas, mais aussi des ordinateurs, peu importe. Et donc, trois possibilités dans ce groupe de référence. Soit l'enfant se met en travail autonome, je suis seule face à mon travail, je gère mon travail quotidien et je m'en sors bien. Travail d'entraide, j'ai besoin d'aide d'un élève qui a mon âge ou d'un plus grand qui va m'expliquer une partie que moi j'ai du mal à comprendre. Et dernière possibilité, c'est le coin détente. Alors, vous imaginez bien que le coin détente, il a beaucoup de succès. Alors, le but du référent, du coup, ça va être un petit peu de gérer, vérifier que, effectivement, tu es autonome face à ton travail et que ben, si tu as déjà fait ce que tu avais à faire, il n'y a pas de raison que je t'emmerde à te faire absolument faire quelque chose. Et donc, du coup, tu peux prendre un bouquin, écouter de la musique, faire autre chose, dessiner. Et donc, c'est un moment où je fais mon travail, mais je le gère de manière autonome. Le référent, c'est aussi la personne qui va être le guide, le témoin des apprentissages de chaque élève. Et donc, on va permettre à ces enfants de faire un portfolio. Le portfolio, c'est le bulletin de l'école. En réalité, dans notre école, il n'y a pas de points, mais des évaluations. Et ces évaluations, au fur et à mesure du temps, sont consignées dans ce portfolio. Et donc, c'est une espèce de photographie de mon évolution en tant qu'apprenant. Et l'apprenant ou l'apprenante va avoir deux autres parties dans ce portfolio à compléter. La première est la partie connaissance de soi. Un petit peu de développement personnel, ça fait jamais de tort, surtout à l'adolescence. Et donc, qui es-tu, toi ? Quelles sont tes forces, tes faiblesses ? Quel est ton caractère ? Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'as-tu découvert sur toi grâce à cette école ? La deuxième partie, c'est apprendre et apprendre à apprendre. Vous allez me dire, un petit peu compliqué tout ça. Mmh. Et en fait, c'est très simple. On va demander à l'enfant de choisir trois exercices, trois feuilles, trois chapitres, trois peu importe, trois choses qui sont des forces et trois choses qui sont des faiblesses. Et l'enfant, il va devoir présenter en fait ce portfolio, ce bulletin à ses parents. Donc chaque trimestre, les parents viennent pour la présentation du portfolio et l'enfant explique pourquoi il a mis ça en fait, qui est un témoignage. Ben voilà, par exemple, moi je me rends compte que dans cette évaluation, j'avais énormément de difficultés, mais j'ai su les surmonter grâce à ça et ça et ça et ça. On utilise aussi le carnet des apprentissages. Alors le carnet des apprentissages, c'est assez chouette parce qu'en fait, c'est un moyen de voir comment j'ai fait pour apprendre. Là, par exemple, toi, Ben, dans ce moment, tu vas peut-être avoir des difficultés. Puis tu vas prendre ton petit carnet des apprentissages. Tu vas te dire, OK, ben là, qu'est-ce que j'ai fait pour surmonter ces difficultés et comment j'ai fait pour apprendre ?
Et je reviens sur cette rencontre entre les parents, les profs, et, enfin les référents, comme tu les appelles, et les enfants. L'idée, c'est de recréer du dialogue entre eux. Finalement, ces trois parties qui vont aider l'enfant à s'élever et à grandir dans la société.
Complètement, en fait, c'est vraiment recréer du dialogue et surtout travailler ensemble. On est chacun constructeur de l'avenir de cet enfant. Et l'enfant en premier lieu, finalement. Le fait que l'enfant présente ses fiertés, ses forces, mais aussi ses faiblesses, c'est un moment extraordinaire. Moi, j'ai pu voir des gamins complètement se raccrocher au scolaire, être fiers de pouvoir présenter à leurs parents et de montrer, ben voilà, là, ben c'est pas un échec finalement, c'est une faiblesse, mais c'est pas un échec, c'est quelque chose que je sais que je dois travailler, c'est finalement l'enfant qui rend des comptes aussi finalement, c'est important de pouvoir se dire, ben c'est pas moi adulte qui dit oui tu as réussi, non tu as échoué, c'est toi enfant qui est conscient de tes propres apprentissages et on fonctionne toujours dans l'école avec l'auto-évaluation et la co-évaluation du référent.
La diversité est d'une importance capitale pour vous, peu importe le milieu social, la religion, la couleur de peau, les difficultés de certains enfants qui peuvent même aller jusqu'au handicap, vous acceptez tout le monde. C'est ce qu'on appelle, au sens propre du terme, une école vraiment publique. Vous prouvez par là que finalement c'est possible et que tout le monde arrive à se mélanger et finalement à quelles difficultés vous êtes confrontés ? Parce que j'imagine qu'il y en a quand même.
Tout à fait. Alors, c'est assez extraordinaire de voir tous ces petits bouts-là qui se mélangent et qui forment une école finalement très, très diverse, enfin voilà, diversifiée. Nous avons des moments, en fait, dans l'école qui permettent de créer ces moments d'échange, en fait. C'est-à-dire que la matinée que je viens de vous expliquer, elle se fait en groupe classe d'âge... différents, mais l'après-midi on va vraiment mélanger et donc chaque trois semaines en fait on n'est pas deux fois dans la même classe avec les mêmes personnes, ce qui permet de connaître en fait finalement tout le monde connaît tout le monde à l'école. Ensuite on a les moments agora, donc toutes les fins de trois semaines on se retrouve toute l'école rassemblée dans la salle de gym, on s'assied par terre en groupe de référence et on s'exprime, on a une scène ouverte et ça c'est assez génial et ça permet en fait de se rendre compte que on est tous logés à la même enseigne dans cette école et ça permet une grande communication. Alors, c'était vraiment primordial pour nous dans notre projet pédagogique d'avoir cette diversité culturelle et sociale au sein de l'école. C'est pour ça qu'on a fait le choix de rester dans le domaine public, ce qui amène pas mal de contraintes en fait, parce que du coup, on est contraint de suivre le programme imposé par l'État belge, ce qui parfois est difficile à faire coller avec notre fonctionnement. Mais voilà, c'est génial parce que finalement, on s'y retrouve avec des gamins du quartier, avec des gamins qui étaient en décrochage scolaire et qui se sont fait virer de toutes les écoles bruxelloises possibles et imaginables, avec des gamins issus des milieux plus aisés de la Commission européenne. On a vraiment une diversité géniale et c'est une force, c'est vraiment une richesse à garder.
Ouais, vous avez vraiment l'impression d'enlever des œillères aux gamins et de montrer que bah, finalement un monde meilleur est possible.
Ah, complètement.
Mais c'est pas un peu utopique quand même.
Complètement, mais si on rêve pas un peu, alors on ne fait rien, n'est-ce pas ?
C'est beau. Justement, tu disais que vous étiez obligé de suivre le programme de l'État belge. Vous êtes inspecté, comment ça se passe ? Ils viennent voir quoi ? Tous les mois, tous les trois mois
Alors tout à fait, pas tous les trois mois, non, faut pas exagérer, mais ils viennent quand même régulièrement. En plus, on est une nouvelle école, on a ouvert il y a 2 ans. Et donc du coup, il y a énormément d'inspections pour voir qu'effectivement, ces élèves ne manquent de rien, parce qu'on ne sait jamais quelquefois qu'on leur ferait la tête à l'envers. Et donc du coup, oui, moi j'ai par exemple récemment eu une inspection. Tu parlais tout à l'heure de l'intégration, donc nous c'est le lycée intégral Roger Lallemand, intégral parce qu'on veut intégrer tout le monde, et notamment les élèves en difficulté, porteurs d'un handicap ou d'une difficulté scolaire grande.
La dyslexie, voilà. Ou ce genre de choses quoi.
Ça peut être de tout, ça peut être la dyslexie comme la déficience visuelle, comme l'autisme, comme voilà, on doit maintenant mettre en place ce qu'on appelle des aménagements dits raisonnables. Et moi, je suis chargée, en plus d'être professeure de musique, de mettre en place ces aménagements raisonnables au sein de l'école. Effectivement, j'ai été inspectée là-dessus récemment. Donc, ils viennent, ils demandent tous les documents, tout ce qu'on a mis en place et on doit montrer patte blanche, quoi. Voilà, donc oui.
Ouais, parce que sinon, quoi, ils pourraient fermer l'école, tu penses ?
Non. Alors, ça, c'est la magie de l'inspection belge. C'est-à-dire, il vient, il dit « Ouh là là, c'est pas bien, quand je reviens, ça doit avoir changé tout ça. » Et donc, on a peut-être un rapport négatif. Maintenant, effectivement, comme on est une nouvelle école et qu'on a un projet complètement différent, on est attendu au tournant parce qu'on dépend malheureusement du pouvoir organisateur de la commune de Saint-Gilles, qui, eux, pourraient tout à fait dire bah, « voilà, le projet ne fonctionne pas et nous coupons les vivres. »
Toi, t'es diplômé du Conservatoire Royal de Mons, c'est ça ?
Exactement.
Je suppose que dans ta vie, avant de rentrer dans cette école, tu as eu d'autres expériences dans des systèmes un peu plus traditionnels.
Complètement.
Quel regard tu portes là-dessus ? Parce qu'au final, on se dit aussi que ce sont les profs qui font cette éducation traditionnelle. Ah, je te vois faire non de la tête, je t'écoute.
Non, alors c'est une utopie de croire que les profs ont les mains libres et font ce qu'ils veulent. Alors c'est clair qu'au sein de ta classe, tu fais quand même ce que tu veux, mais à partir du moment où tu es enfermé dans un carcan et vraiment le système belge, je pense, est très similaire au système français, lie complètement les enseignants et se sentent complètement oppressés par ce mode de fonctionnement. Alors moi, ce que j'ai pu constater durant cette année dans l'ordinaire, en fait, c'est que c'est une souffrance pour les professeurs, une souffrance pour les élèves, une souffrance pour les parents, une souffrance pour tout le monde. Sincèrement, je ne pouvais pas en vouloir à ces gamins d'avoir une telle violence, une telle colère contre moi ou contre l'institution que représente l'école. Je ne peux pas leur en vouloir car moi-même, j'étais en désaccord le plus total avec le fonctionnement, parce que la richesse de cette école que l'on a créée, c'est qu'on remet l'humain et les sentiments, les émotions, le ressenti, voilà, on apprend l'empathie finalement tous les jours dans cette école, chose qui est complètement oubliée dans les enseignements traditionnels. Tu n'es pas un humain, tu es une machine, bouffe la matière et on verra après. Et ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas acceptable aujourd'hui. Si c'est pour former des gens qui savent faire ce qu'une machine peut faire, alors on est perdu demain parce que les machines font déjà ce qu'on peut faire. Et donc ce qu'il faut développer, c'est l'intelligence émotionnelle, la conscience de l'autre, la communication, toute la réflexion, toute la richesse en fait de l'être humain. Et je pense que tout ça est beaucoup trop oublié, et ce qui crée une souffrance réelle de la part des gens.
Voilà, chers amis lausériens, prenons-en de la graine. Je pense que si on pouvait arriver à des systèmes comme ça, d'éducation alternative, comme tu dis en France, ce serait pas mal. Nous, ici, il y a quand même quelques écoles qui fonctionnent avec le système traditionnel et qui vont aussi utiliser quelques techniques. Malheureusement, ce n'est pas super bien accepté par tout le monde. C'est bien dommage. Merci, Lila, d'avoir été avec nous ce matin.
Mais de rien, merci de m'avoir écouté.
Et bon retour à Bruxelles.
On va essayer.
Dans un instant, Manon est parti aux Journées de la Forêt, mais on continue sur la prog belge. En fait, un groupe bien plus connu, ils ont dépassé les frontières, peut-être que vous les connaissez, chers auditeurs, chères auditrices. Moi, j'ai eu la chance de les voir plusieurs fois. Ils ont un univers musical et visuel vraiment intéressant. C'est Girls in Hawaii, le morceau s'appelle The Light. Thank you.
used to spend the night in smoke, not in the clouds. But you keep your eyes open at night. You keep your eyes open at night. As you fling in the dirt and in the crowd, keep yourself unconscious now. You keep yourself unconscious now. And you shut down all the curtains when the sun shines.
Bon bah non, raconte-nous, t'as fait quoi la semaine dernière ? Et Manon, après ton excellent reportage, bah tu nous gratifies maintenant d'une chronique de temps en temps. Et cette semaine, tu veux nous parler de la virtualité et du web libre. Mais qu'est-ce donc tout ça, on t'écoute ? Merci Manon, merci à tous de nous suivre. On se retrouve lundi avec Jean-Baptiste de la compagnie de clowns Jivago. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end. On se quitte avec une chanteuse flamande que j'adore. Sur scène, ça lui arrive de sauter à pieds nus sur son piano. Elle s'appelle Anne Pierlet, Strange Day. Je vous souhaite une excellente journée. À lundi. Ciao.
Please believe in what you do. Don't let them change you. Don't let them touch your soul. Because you're beautiful, but they won't let you know. And please believe in what you do. Don't let because it's all they know, because that's what they do. Strange days, why let them be the way they choose? The games you play, they got stuck inside. Save the day. Don't let them think instead of you. Don't let them chase you. Don't let them frighten you. Because your weakness makes them suck the best from you. And please don't wait until you see, it's time, take action. when you're small and sweet, they want to keep you so. Strange ways, why let them lead the games they choose? Stuck inside the heyday. Just don't let them think they get away with it. Stuck inside.